تلفن تو دستمونه و مغزش جلومونه وسط سینی گرم کنیم برای راند بعدی وایسی جلومون که باخت قطعیه عقب نشینی اینجا نداره معنی جرم حرف پینم خلاف بعدی گرمیدیم آسفالتو این خیابون آمار من روحی کمانجو ای بزرگ شده یه پادگان گرمیدیم آسفالتو این خیابون آمار من این خیابون آمار من ما هنوز زنده ایم ما هنوز زنده ایم هنوز ما هنوز زنده ایم ما هنوز زنده ایم
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. On vient donc d'entendre effectivement Tomaj, ce rappeur iranien, grand résistant pour les droits et contre l'oppression dans son pays, effectivement. Voilà, donc vous pouvez l'écouter sur YouTube, hein, vous avez le morceau avec une vidéo qui est sous-titrée, ce qui vous permet effectivement de comprendre, parce que pour ne rien vous cacher, on ne parle pas bien le persan.
Le farsi.
Enfin, le persan, le farsi, je ne sais pas quelle est sa langue, ça doit être le persan, je pense. Bref, donc on va continuer nos informations sur la situation du monde vis-à-vis des droits humains. Et comme on parle de la situation du monde, on va vous parler, mais c'est Edith qui va le faire, d'Israël.
Oui, parce que à la dernière, notre dernière radio, on l'avait un tout petit peu évoqué en fin d'heure. Et donc on avait dit qu'on allait en reparler. Et effectivement, c'est cette fameuse proposition de loi, même cette loi qui a été votée le lundi 30 avril par la Knesset, une loi qui élargit et accélère le recours à la peine de mort, adoptée à 62 voix contre 48. Bon, on peut se dire voilà qu'il y a quand même aussi un peu d'opposition en Israël, puisqu'on arrive actuellement, on ne voit que ce que les ministres et le gouvernement d'extrême droite nous donnent à montrer, mais il y a quand même 48 voix qui étaient contre.
Juste, je t'interromps une seconde, excuse-moi, mais la Knesset, pour ceux qui ne sont pas au courant,
c'est le Parlement israélien. Voilà, et c'est ça. Donc, une modification de la législation pénale israélienne nommée « Loi sur la peine de mort pour les terroristes ». Et avec cette loi, Israël donne carte blanche pour exécuter les Palestiniens ou Palestiniennes sans garantie de procès équitable. Un tournant alarmant. Alors, des explications. Une loi à contre-courant. Alors, en Israël, traditionnellement, la législation israélienne restreignait le recours à la peine de mort aux crimes d'une exceptionnelle gravité comme le génocide et les crimes contre l'humanité. La dernière exécution judiciaire dans le pays remontait à 1962. Alors, cette loi est à contre-courant de la marche du monde et de l'objectif d'abolition proclamé par, dans un traité international essentiel que le pays a lui-même ratifié en 1991. Cette loi viole le droit à la vie, démantèle les garanties fondamentales à un procès équitable, renforce l'apartheid israélien maintenu par des dizaines de lois discriminatoires à l'encontre des Palestiniens et Palestiniennes. Donc, c'est l'une des plus extrêmes au monde sur la peine de mort, car avec cette loi, les personnes condamnées à mort n'ont d'ailleurs pas le droit de grâce. Cela en fait l'une des lois les plus brutales. Ça cible palestiniens-palestiniennes. Avec cette loi, en Israël et à Jérusalem-Est, annexée illégalement, les tribunaux civils sont autorisés à prononcer la peine de mort contre toute personne reconnue coupable d'avoir tué intentionnellement dans le but de nier l'existence de l'État d'Israël. Alors, preuve que cette loi cible délibérément les Palestiniens. Alors, les exécutions en 90 jours sans garantie d'un procès équitable. En vertu de cette loi, en Cisjordanie occupée, les tribunaux militaires peuvent désormais condamner à mort des Palestiniens accusés d'homicides volontaires commis dans le cadre d'actions définies comme terroristes par Israël. L'exécution aura lieu dans les 90 jours seulement après le verdict définitif. Alors pour rappel, les tribunaux militaires affichent un taux de condamnation de plus de 99% pour les accusés palestiniens. Et ils sont connus pour bafouer les garanties d'une procédure régulière et d'un procès équitable. Alors, son application contre les Palestiniens du territoire occupé pourrait équivaloir à un crime de guerre, toute peine de mort prononcée en vertu de cette loi constituerait une violation à la vie et ce que je viens de dire, donc, et qui équivaut à un crime de guerre. Et on peut noter que cette loi est adoptée le mois, donc on est en mois de mars, où toutes les charges contre des soldats israéliens accusés d'avoir agressé sexuellement un détenu palestinien ont été abandonnées. Cela en dit long sur l'ampleur de la déshumanisation des Palestiniens par Israël. Alors ce qu'on demande aussi, donc Amnesty demande que la communauté internationale fasse pression le plus possible sur les autorités israéliennes pour qu'elles abrogent immédiatement cette loi, abolissent totalement la peine de mort et démantèlent toutes les lois et pratiques qui contribuent au système d'apartheid contre la population palestinienne. Mais ce qu'on demande aussi en plus, c'est par rapport à l'Europe, par rapport à l'Union européenne. Elle a toujours soutenu que la peine capitale était cruelle, inhumaine, incompatible avec la dignité humaine en toutes circonstances. Mais au-delà de cette position de principe, la nouvelle loi israélienne enfreint des garanties fondamentales reconnues par la communauté internationale qui visent à protéger les droits des personnes encourant la peine de mort. Son caractère discriminatoire et l'absence de garanties de procédure violent le droit à la vie et aux protections consacrées par le droit international humanitaire. Bon, je vous épargne les textes, mais ce sont des textes officiels et qu'Israël a aussi reconnus. Donc, il y a eu des démarches diplomatiques entreprises par l'UE et les États membres pour exhorter Israël à faire marche arrière, mais jusqu'à présent, c'est infructueux. Et donc, cette décision consternante intervient dans un fonds de catastrophe humanitaire. Bon, Amnesty a dénoncé le génocide à Gaza. On voudrait bien quand même que l'Europe se positionne, parce que là, Israël, je vais juste vous dire rapidement tout ce que les lignes rouges franchies par Israël, et ces lignes, elles sont fixées par l'UE. Alors effectivement, Israël n'est pas en Europe, on est bien d'accord, mais il y a des accords économiques entre l'Europe et Israël. Donc ligne rouge franchie. Poursuite de la construction de colonies dans une zone qui était logiquement réservée aux Palestiniens. Le but, c'est d'empêcher la création d'un futur État palestinien. Interdiction de l'UMRWA, donc
l'Organisation des Nations Unies, voilà. pour l'aide aux Palestiniens.
Voilà. Merci Didier de m'aider sur les acronymes. Et attaque contre ces installations, notamment des écoles, des centres médicaux construits et gérés avec les contributions de l'Union européenne. Expulsion d'ONG internationales avec des procédures d'enregistrement restrictives, tout ce qu'on vous a dit déjà de ces dernières années, derniers Médecins du Monde, enfin tous ceux qui ont été obligés de partir. Expulsion forcée des résidents palestiniens à Jérusalem-Est. Déplacement forcé de milliers de Palestiniens. Démolition massive des logements et d'infrastructures palestiniennes en Cisjordanie, y compris des projets déjà financés par l'Union européenne. Impunité persistante pour les exécutions commises par les forces de sécurité israéliennes et des violences commises par les colons, avec l'assentiment de l'État. Informations faisant état d'actes de torture, de mauvais traitements infligés de façon généralisée et systématique à des détenus palestiniens et palestiniennes. Restriction des libertés religieuses, attaque contre les journalistes, refus d'accès aux représentants de l'UE. Alors effectivement, quand on voit tout ça, on aimerait bien qu'il y ait quand même un arrêt, que l'UE respecte les principes qu'elle a elle-même énoncés, les obligations juridiques, en suspendant, à titre de mesure immédiate minimale, le volet commercial de l'accord d'association Europe-Israël et en adoptant d'autres mesures, comme l'a proposé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en septembre 2025. On attend toujours.
Et oui. Et ça me fait penser, quand on parle d'accord économique, c'est pas une source amnistienne, mais c'était dans Le Monde diplomatique, il y a deux mois, un article qui expliquait comment, en viticulture, donc pour produire du vin, des colons s'installaient effectivement dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, expulsaient, expropriaient les propriétaires terriens qui étaient là depuis des générations et des générations, et qu'après, ce vin, donc, qui était produit complètement illégalement au regard du droit international, transitait par Israël, prenait une belle étiquette produit en Israël et était vendu par des grossistes en Europe.
Absolument. Voilà. Et voilà. Et il y a eu tous ces oliviers et champs-oliviers qui ont été, été coupés, massacrés. Et là, maintenant, c'est carrément viré.
Dans l'article, il y avait un ancien producteur d'olives qui expliquait qu'il était là depuis son arrière-grand-père, cette production, et que tout avait été arraché pour produire du vin avec le label vin israélien.
Donc, vraiment, un pays qui, voilà, qui sort de tous les textes qu'il a lui-même acceptés.
Voilà, donc tu voulais me laisser la parole pour un projet de
oui,
loi,
voilà, ça, pour compléter quelque chose.
Ce qu'on vient de dire, effectivement, mais là qui nous concerne nous en France, mais qui va dans le même sens que c'est ton intervention. Donc, c'est un petit communiqué d'Amnesty qui précise, ce jeudi 16 avril, donc c'est après-demain, la députée Caroline Yadan présentera à l'Assemblée nationale un projet de loi visant, selon son objectif déclaré, à lutter contre l'antisémitisme. A priori, lutter contre l'antisémitisme, nous, ça nous va très bien. Mais derrière l'intention affichée, cette proposition de loi ouvre la voie à de dangereuses dérives. Une loi liberticide, elle risque de restreindre l'expression d'opinions politiques sur les violations commises par Israël en Palestine. On vient de vous en parler. Une loi répressive, c'est un outil politique qui pourra être utilisé pour criminaliser les soutiens envers le peuple palestinien. On vient aussi de vous en parler. Une loi inefficace, alors que l'antisémitisme augmente et qu'il est urgent de protéger les personnes et les communautés juives contre les violences et les discriminations, cette proposition de loi instaurera un contrôle des opinions. Et donc Amnesty précise non au projet de loi Yadan. Et moi, je voudrais juste ajouter un petit commentaire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, et c'était le cas de notre, il n'y a pas si longtemps, de la part de notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui, à l'instar de beaucoup d'autres, disait que l'antisionisme était assimilable à de l'antisémitisme. Ça, c'est vraiment une grosse escroquerie intellectuelle. On peut être tout à fait antisioniste, c'est-à-dire, en fait, au niveau de l'histoire, s'opposer au fait que les populations juives migrent vers l'État d'Israël pour s'y installer comme étant leur supposé, d'après eux, territoire d'origine. Mais ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est s'opposer aux juifs, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont juifs. On peut s'opposer à un mouvement historique si on le considère comme injuste, sans être absolument du tout antisémite. Et moi, je vais même plus loin, je pense que vouloir assimiler antisionisme et antisémitisme, c'est antisémite.
Voilà, et c'est pour ça que ce projet de loi, on va voir ce que ça va donner, mais il y a eu aussi beaucoup de signatures, il y a plus de 500 000 personnes qui ont dit non, ça c'est quelque chose qui ne va pas dans la liberté d'expression et effectivement fait. Ce que tu viens de dire.
Tout à fait. Et encore une fois, juste pour conclure, s'opposer aux crimes que, et ils sont nombreux, que commet le gouvernement israélien Netanyahou et tous ces ministres d'extrême droite, effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait de s'opposer à la population civile israélienne, bien évidemment.
Et aux juifs de partout dans le monde.
Juifs. Voilà. Ce sont des crimes d'État, on s'oppose aux crimes d'État, en tant que militant des droits humains, on n'a absolument pas de penchant pour l'antisémitisme ou pour la condamnation d'un peuple ou d'une religion quelle qu'elle soit à travers le monde. Ça n'a rien à voir. Mais les crimes sont les crimes, qu'ils soient commis par des gouvernements israéliens ou pas.
Voilà, c'est la problématique des gouvernements qui représentent aussi une religion et que c'est un...
Ben, c'est ça le problème, aussi.
Alors, ensuite...
Oui,
je remets Didier devant l'horloge.
La pendule.
Parce qu'on n'est que tous les deux ce soir, vous
voilà,
êtes rendu compte.
Oui, tout
donc
à fait.
C'est ou lui
grave.
Ou moi, quoi.
Donc, effectivement.
Ou la musique.
Généralement, c'est moi qui fais signe à nos amis interlocutrices qui montrent la pendule en disant que le temps passe. Mais là, c'est Edith qui le fait. Donc voilà. On va vous passer la deuxième pause musicale. On se retrouve juste après.
Yoga, banam boka bao kende bao kimape, banam piaka bao kende pasele kinde, mokili banga daba, lelo ya yolo bianga, lelo na yelo bioko ya pesanga lopo.
Ils sont calcinés nos rêves chez moi, je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce pillage.
Si je pars, c'est pour la dignité, sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi.
N'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi.
Perdre la vie pour les râles ici. Les richesses que tu vises, ils les prennent ici. Trop de haine entre nous, trop de jalousie. Vendre ton frère en Libye, c'est quoi ton alibi?
Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est un sens unique. Loin de tout, loin de tous tes droits.
Jamais n'oublie ton pays, tu l'as aussi en toi.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi.
Il a tellement eu de problèmes, il a mangé son totem. Kédio, si tu restes ici là-haut, ça va te faire quoi?
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la fin, puisque c'est la dernière partie de notre émission sur la promotion et la défense des droits humains. Et on va vous parler d'un pays dont on n'a pas évoqué non plus lors de nos dernières émissions. On vous rappelle que les podcasts, de nombreux podcasts sont disponibles sur le site de la radio, principeactif.net, à la rubrique Amnesty International. Donc n'hésitez pas à les réécouter ou à les écouter si vous les avez manqués. Et donc, un pays dont qu'on n'a pas évoqué beaucoup lors de nos dernières émissions, et c'est la Russie. Et c'est Edith qui va vous en parler.
Voilà, donc la Russie, petite,
on va dire presque...
Désolé Edith, j'avais oublié de remonter la tranche de ton micro.
Vous ne m'aviez pas entendu. Donc je disais que la Russie, c'est un pays qui ne fait pas tout de suite l'actualité, mais qui continue, on va dire, son détricotage des droits humains. Et la dernière nouvelle que j'ai lue, c'est que Mémorial, c'est une grosse ONG qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc là, sur l'article, ça fait 40 ans que Mémorial a été une ONG des droits humains en Russie. Une ONG qui recueille les informations sur la répression passée et présente en Russie, qui a permis que les violations commises à l'encontre des milliers de personnes ne tombent pas dans l'oubli. notamment le cas pour les victimes des goulags staliniens, des actes illégaux, les violations des droits humains commis lors des conflits en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, mais aussi la détention arbitraire de centaines de détracteurs et d'opposants politiques du Kremlin actuel. Donc c'est une organisation de premier plan. Mémorial défend courageusement les droits humains et est la cible de terribles représailles, notamment la persécution, la détention et l'homicide de membres de son personnel. C'est ce qu'a déclaré Denis Krivotchek, directeur adjoint pour l'Europe et de l'Est et l'Asie d'Amnesty. Eh bien, Mémorial, lauréate du prix Nobel, désignée dernièrement comme extrémiste et interdite par les autorités russes, qui ont désigné extrémiste de façon arbitraire cette organisation de défense.
Oui, c'est interrompu, mais forcément, quand on défend les droits humains et le bien vivre ensemble, et la paix, et etc., on est forcément extrémiste, ça tombe sous.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà, en 2021, la Russie avait bloqué quand même cette organisation. Mais cette organisation, elle a aussi, elle a fait des bébés. Il y a d'autres organisations qui sont, qui dépendent de la même. Et là, franchement, c'est le coup de grâce, quoi. Une audience qui s'est tenue le 9 avril 2026. La Cour suprême de Russie a fait droit à la requête du ministère de la Justice visant à désigner comme extrémiste le mouvement public international Mémorial, une expression fourre-tout employée par le gouvernement pour élargir l'interdiction à toutes les organisations liées à Mémorial et à interdire ses activités dans le pays. Et donc, quand je vous ai expliqué tout ce que faisait Mémorial, bon, ce qui est quand même sûrement très gênant pour le gouvernement de Monsieur Poutine, c'est cette masse d'informations, cette mémoire de tous les crimes, de toutes ces violations des droits humains qui se sont passées en Russie, puisque pour Poutine, Staline, c'est pratiquement un copain. Enfin bon, oui. il y a une réécriture.
C'est un nostalgique du Staline.
Voilà, il y a une réécriture de l'histoire qui fait que bientôt il y aura plus de goulag. Enfin, il y aura plus de choses comme ça. Donc c'est ça sûrement aussi qui faisait vraiment de l'ombre, même si nous on demande que les autorités russes reviennent sur cette décision scandaleuse et veillent à ce que Mémorial et les organisations de défense puissent exercer leur liberté, leurs activités librement. C'est vraiment une campagne depuis des années contre Mémorial, parce que ce que j'avais appris, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a le Mémorial International, le Centre Mémorial, il y a même une association mémoriale basée en Suisse, une fondation allemande, tout ça, ça a permis de garder ses mémoires. Et donc, oui. J'espère que même si le fait que les personnes citent même les associations étrangères en Russie, maintenant, comme ça a été décidé comme terroriste et carrément inadmissible, s'ils citent dans un mail, dans une conversation, eux-mêmes peuvent être arrêtés et avoir la justice qui va leur tomber sur le dos. C'est ça aussi, le système russe qui va se passer. Donc j'espère que dans les organisations à l'étranger, il va pouvoir garder quand même, on va dire, une base de données. Hein, pour que ça puisse être regardé et utilisé à un moment ou à un autre pour la véritable histoire russe.
Oui. Il y a d'ailleurs un bureau de Mémorial en France. Effectivement, ils ont un site internet. Ça m'arrive de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil dessus.
Voilà, donc
je crois que le nom du site, c'est memorial.org, si je ne me trompe pas.
Il y a plein, voilà, c'est ça, Mémorial. La fondation allemande, c'est Zukum Mémorial. La Suisse, c'est Association Mémorial International. Voilà, donc il y a sûrement beaucoup de déclinaisons. Et heureusement, mais bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, dans le même esprit, la Russie aussi a décidé qu'il y allait y avoir une aggravation de la répression contre les droits des LGBT. Là aussi, c'est une condamnation de choses qui va... Attendez, je reprends ma feuille. Voilà, la loi sur les extrémistes utilisée pour cibler. Donc, extrémiste, c'est vraiment un mot à beaucoup de tiroirs, mais qui plaît beaucoup en Russie.
C'est un mot valise, comme on dit. Hein.
Carrément, carrément.
Ça permet de mettre beaucoup de choses.
Donc, la justice a pris des mesures en vue d'interdire en tant qu'extrémiste deux organisations majeures de défense des droits des personnes LGBTI en Russie, le réseau LGBT russe et l'association Vicon, basée à Saint-Pétersbourg. c'est toujours de l'instrumentalisation des lois vagues sur extremis pour criminaliser la défense des droits humains et aussi mettre hors la société des personnes qui fréquentent ces associations. Alors, juste pour vous donner un exemple malheureusement réel, donc une jeune femme, Tatiana Zorina, propriétaire d'une discothèque, a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir soi-disant organisé l'activité extrémiste d'un mouvement international LGBT inexistant dans son établissement. Et la condamnation illustre de façon saisissante l'aggravation de l'utilisation de la législation relative aux prétendus extrémistes par les autorités russes, qui devient de la persécution pure et simple contre les personnes LGBT et leurs alliés. Tenir un établissement privé conçu comme un espace où les personnes LGBT peuvent être elles-mêmes n'est pas un crime. Nier ce droit est lamentable, déclare Marie Struder, directrice du programme Europe pour Amnesty. Et on demande à ce que, déjà, le jugement soit annulé, qu'on libère Tatiana et qu'on abroge ces lois complètement arbitraires et complètement ségrégationnistes par rapport à la population LGBT.
Oui. Il faut rappeler que, par exemple, dans tout l'arsenal débile, entre guillemets, utilisé par les autorités russes et le Parlement russe, etc., pour établir ces lois, il a été dit que les minorités sexuelles étaient effectivement facteurs de pédophilie. Voilà, ce qui est absolument insupportable.
Et juste pour donner une idée, fin d'année 2025, au moins 23 procédures pénales ont été engagées pour extrémistes contre des activités LGBT. Voilà, en Russie.
Ok, on va revenir en France. On n'a pas parlé beaucoup de la France. On a parlé tout à l'heure de ce projet de loi condamné par Amnesty, qui va passer au Parlement après-demain. Mais dans la chronique, toujours, il y a une petite rubrique qu'on utilise de temps en temps dans nos émissions qui s'appelle « Nos droits à l'épreuve des nouvelles technologies ».
Souvent, c'est moi, j'aime bien.
Souvent,
mais c'est ton anniversaire, je te propose. C'est cadeau.
Souvent, c'est Edith qui vous en parle. Et moi, dans la dernière chronique, il y en a une que j'ai relevée. Donc, ça se passe chez nous. Et ça dit la chose suivante. 2,1 millions de données piratées. Le 1er janvier... un hacker a revendiqué le vol de 2,1 millions de lignes de données personnelles stockées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI. C'est son nom, l'OFI, O-F-2-I. Les victimes avaient en commun d'avoir signé le contrat d'intégration républicaine, ce fameux contrat d'intégration républicaine qui a été voté il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qu'Amnesty France a largement critiqués, donc ont été volés les identités, les coordonnées, les situations familiales et administratives d'étrangers vivant en France, risquent de se retrouver ces coordonnées en vente sur le dark web, c'est-à-dire la face cachée et chiffrée d'Internet. L'OFI a confirmé le vol et porté plainte, mais le préjudice est d'ores et déjà avéré. Les personnes concernées sont exposées à des risques accrus d'hameçonnage ciblé, d'extorsion ou d'usurpation d'identité. Alors moi, ce qui me pose question, ça c'est ce que dit cette petite article, mais ce qui me pose question, effectivement, c'est que ça a ciblé des gens qui ont signé le contrat d'intégration républicaine, qui était proposé comme étant un engagement pour les associations et les particuliers pour respecter les voies de la République, qui atterrissent effectivement sur ce site de internet de l'OFI et qui sont piqués. C'est-à-dire, l'État français est aussi nul que ça pour protéger les données personnelles des étrangers vivant en France et qui ont fait preuve de bonne volonté en signant cet engagement républicain. C'est quand même, comme dirait ma grand-mère, fort de café, cette histoire.
Donc, voilà, et puis c'est quand même très dangereux parce que c'est aussi toute une population qui est pour certains fragilisée. Et donc là, se retrouver avec des données qui vont être revendues, vont vraiment, c'est compliqué pour eux parce que qui va les défendre? Là, effectivement, ils ont porté plainte. Oui. Ils ont dit, bah non, c'est désolé, mais tout ça, c'est parti. Mais à partir de là, à quel moment, eux, vont pouvoir aussi avoir de l'aide? Ça, c'est pas dit dans ton article.
Non, c'est pas dit dans l'article. Et il y en a un autre, si tu me laisses encore 30 minutes. Ça se passe là au Myanmar, c'est-à-dire en Birmanie. Et ça, c'est un côté positif d'Internet. Par contre, il faut aussi en parler. Ça s'appelle « Haut-parleur de survie ». Un jour de novembre 2025, le téléphone de l'activiste birman Bi Kial vibre. Via l'application Telegram, des contacts l'informent que des avions de chasse de la junte viennent de décoller de la base militaire proche de Sagen. Dans la minute, Bi Kial lance l'alerte par Tokiwaki, question de vie ou de mort. Son cri est aussitôt diffusé grâce à un réseau de haut-parleurs dans un village voisin. Ce système rudimentaire est efficace dans le pays où la junte, au pouvoir depuis 2021, multiplie